Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois Fabrice d'Almeida. Fabrice d'Almeida, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du nazisme, vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage consacré à la vie mondaine sous le nazisme qui a remporté un grand succès paru chez Perrin. Nous continuons notre série de portraits consacrés aux dignitaires nazis et une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à une femme qui est Magda Goebbels. Alors, il est intéressant de voir que Magda Goebbels revient sur le devant de l'historiographie. Il y a notamment une biographie qui vient de sortir chez Talendier, une biographie dont l'auteur est Anna Klabunde, qui est une historienne allemande. Pourquoi cet intérêt historiographique soudain ?
Disons que là, la traduction de ce livre, qui est un livre qui a quelques années, intervient après quand même l'ouragan qui a été Der Untergang, la chute, le film sur les derniers jours de Hitler dans le bunker. Et il est clair que le personnage dans le film a intrigué et qu'il y a un intérêt pour elle. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une espèce de retour historiographique de Goebbels, Joseph Goebbels, et donc par voie de conséquent de sa femme, puisque nous avons traduit en France la deuxième édition de son journal qui est en cours de publication et qu'au fond, en Allemagne, il y a eu déjà plusieurs biographies récentes et nous savons qu'il y en a d'autres qui sont en cours de préparation en France. Donc, s'il y a ce retour, c'est peut-être d'abord parce qu'il y a cette source étonnante qui est le journal de Joseph Goebbels dans laquelle on trouve énormément de détails sur la vie de famille, sur l'intimité. Il y a ensuite effectivement peut-être ce drame final sur lequel il faudra que nous revenions qui est l'anéantissement d'une famille. Et puis, il y a sûrement l'idée qu'on a beaucoup déjà parlé de Hitler. Il y a eu déjà des grandes biographies, il y a eu déjà des grands travaux qui sont intervenus. On a l'impression que le débat sur Hitler est un peu saturé et que peut-être on est en train de rentrer dans une phase d'intérêt pour des personnages seconds du Troisième Reich, mais dont on pense qu'ils ont eu une importance considérable. Et Goebbels est assez attirant dans cette perspective. Parce que, en tant que ministre de la propagande, il touche à des questions qui sont extrêmement proches de celles que nous pouvons avoir aujourd'hui dans la question des médias, de l'usage des médias, dans la question de comment la vie privée et la vie publique peuvent se mélanger. Bref, permet de poser des questions qui sont aussi importantes pour notre époque.
Alors, quelles sont ses origines ?
Alors, elle, c'est une femme, Magda Goebbels, qui est une femme d'origine assez modeste. Elle a un itinéraire un peu particulier puisqu'elle va être pratiquement une enfant abandonnée par son père. Donc, elle va être élevée par sa mère. Sa mère va se remarier avec un juif, Monsieur Friedlander. Et donc, elle va être adoptée par ce personnage. Donc, on peut dire qu'elle a eu une enfance qui a été marquée par le fait qu'elle a fréquenté des milieux juifs et elle a même eu un amant sioniste qui a expliqué plus tard une rupture avec son premier mari puisqu'elle va faire un extrêmement beau mariage. Elle va épouser un banquier, une des personnes peut-être les plus riches de l'Allemagne des années 20 qu'elle rencontre en 1920 dans le train et donc ce banquier Günther Quandt va l'épouser. Elle va avoir un enfant avec lui et au fond, ils vont divorcer et se séparer à la fin des années 20, en 1928. Et à partir de ce moment-là, elle sera le cœur à prendre et elle va rencontrer finalement Goebbels après l'avoir entendu à un meeting. Elle décide de militer dans le parti nazi et elle va militer dans une des sections d'un quartier chic de Berlin et elle va avoir l'occasion de rencontrer celui qui est le Gauleiter, le responsable administratif du parti nazi pour Berlin, qui est Joseph Goebbels. Et c'est ainsi que va commencer une idylle, puis qu'ils vont se marier avec comme témoin de ce mariage Adolf Hitler, qui est là le jour de la noce. Il y a plusieurs documents d'ailleurs qui illustrent ce mariage. Ce qui est assez amusant de voir, c'est que la haie d'honneur est composée de membres du parti nazi et de la SA qui n'ont pas le droit d'être en uniforme. Donc, ils sont là en veste et casquette, mais ils font exactement le même geste et le même cérémonial que dans les cérémonies officielles du parti, dans les autres Länder, dans les autres régions où ils ont droit d'être en uniforme. Par contre, le fils de Magda, Harald, est là et il est habillé, lui, en uniforme de Hayot, parce que les Hitlerjugend, donc les jeunesses hitlériennes, n'ont pas eu leur uniforme interdit comme uniforme de l'organisation nationale-socialiste.
C'était une belle femme ?
C'est une, pour les canons de l'époque, c'est une assez belle femme, blonde, de très beaux yeux bleus, assez grande, très élégante. C'est une femme qui est habituée aux mœurs de la haute bourgeoisie, donc qui sait très bien porter les robes de soirée. Elle s'intéresse de près à la mode et à la haute couture. Elle va vouloir d'ailleurs jouer un rôle dans ce domaine en essayant de développer et de créer une mode qui soit du plus pur style allemand. Il y a d'ailleurs une anecdote à ce propos, puisqu'elle va convoquer dans son bureau en 1933 la journaliste Bella Fromm, qui est la principale chroniqueuse mondaine de l'époque, et elle va lui ordonner de ne faire comme défilé pour le défilé des femmes de la haute société allemande, des femmes de l'aristocratie allemande qui avait lieu traditionnellement chaque année sur le champ de course de Berlin, à l'Opgarten. Elle va lui demander qu'il n'y ait que des couturiers allemands. Ce qui fait sourire Bella Fromm, qui se dit « elle va être belle notre mode s'il n'y a que des couturiers allemands ».
C'est une femme de culture ?
Alors, c'est une femme de culture national-socialiste, il faut ajouter. Parce que c'est pas quelqu'un qui prétend être neutre politiquement. En ce sens, elle est assez symptomatique d'une frange de la population allemande qui s'identifie totalement avec le régime. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment qu'on est rentré dans une nouvelle Allemagne, dans une nouvelle culture, et que donc il faut complètement renverser ses valeurs. Et elle est non seulement lectrice de Mein Kampf, qu'elle a lu, mais fait plus rare, même si certains le prétendent et ne l'ont pas fait, fait plus rare, elle a lu le livre d'Alfred Rosenberg, Le mythe du XXe siècle, qui est le vrai livre de doctrinaire du national-socialisme, et elle le connaît, elle est capable d'en citer des passages. Donc c'est une espèce de militante, il ne faut pas l'oublier, et elle va même à plusieurs reprises intervenir auprès de son mari en disant « si Hitler veut, tu dois faire ». Donc elle est peut-être plus hitlérienne que Joseph Goebbels. Il ne faut pas l'oublier, c'est une dimension extrêmement importante. Beaucoup de femmes vont s'investir dans le Troisième Reich et vont avoir le sentiment que le Troisième Reich ne veut pas leur donner de place en politique, mais que le Troisième Reich leur donne la dignité.
Alors, est-ce qu'elle est représentative justement des femmes sous le Troisième Reich ?
Pas tout à fait, parce que quand même, elle devient la première dame du Reich. Donc, elle a une dimension comme ça d'icône. Elle va être la première dame jusqu'en 1935, le moment où c'est Madame Göring qui lui ravit ce poste, puisque Göring étant plus haut dans la hiérarchie, eh bien, ce sera à son tour, à Madame Göring, de l'accompagner dans les cérémonies officielles. Mais jusqu'en 1935, c'est elle la première dame du régime, c'est elle qui reçoit les ambassadeurs avec Hitler, c'est elle qui accueille, c'est elle qui fait des propositions aussi d'aménagement pour les appartements berlinois. Donc elle joue un rôle tout à fait important et en même temps, elle est différente, disons, d'une femme allemande moyenne, même si c'est l'image qu'elle veut donner, l'image de la mère de famille, hein, mère de 6 enfants, enfin 7 en comptant son fils aîné. Mais ensuite, elle en aura d'autres avec Joseph Goebbels, toute une ribambelle de jolis petits-enfants blonds. Donc, elle a cette image-là de la mère de famille allemande, mais en même temps, c'est une activiste. Une activiste qui crée des fonds sociaux, qui crée des fondations, qui est présente sur le terrain de l'image. Et donc, ce n'est pas seulement une simple femme au foyer, comme le veut Hitler, puisque Hitler, vous le savez, avait dit que les femmes, ça devait être Kinderküche. Donc, c'est-à-dire la femme, ça devait s'occuper des enfants, de la cuisine et puis de la maison, quoi. Et de la religion aussi.
En quoi le couple Goebbels évoque la frontière entre la vie privée et la vie publique ? Quelle est, dans ce couple, existe-t-il une frontière entre vie privée et vie publique ?
Oui, c'est peut-être là que le couple Goebbels est le plus emblématique du profond changement qui se produit en Allemagne sous le nazisme. Il y a une phrase que Hannah Arendt aimait beaucoup citer, c'est « en Allemagne, il n'existe plus d'individu privé si ce n'est celui qui dort ». Et c'est vrai que quand on regarde la vie des Goebbels, on a l'impression qu'elle est entièrement réglée par l'appartenance au parti nazi et par l'activité partisane. Les enfants sont membres des organisations du parti. La mère est membre des organisations du parti. Le père travaille pour la vie politique allemande. Leur vie publique est passée dans la presse. Elle est diffusée. Elle est visible. Et même, on peut dire que leur sexualité va être en partie réglée par l'appartenance idéologique, puisqu'il se trouve que Joseph Goebbels, comme ministre de la propagande, rencontre énormément d'autres belles femmes, des actrices, certaines célèbres, et qu'il va avoir une liaison avec une actrice d'origine tchèque, Lida Baharova, qui va être sa maîtresse. Et c'est Hitler qui va intervenir et qui va le contraindre à la rupture avec sa maîtresse en lui disant « tu ne peux pas te permettre cela, tu es obligé de revenir avec Magda ». Et il le fait au nom de l'idéologie politique. Donc on peut dire que même sur le plan de la sexualité, alors que d'autres dans le régime font des débordements bien pires que d'avoir des maîtresses, eh bien, quand on a une image trop engagée, on ne peut pas se permettre un certain nombre d'écarts. Voilà la position que va lui tenir Hitler, et on se rend compte donc que Goebbels va avoir la totalité de sa vie réglée par la politique.
Elle est en concurrence avec d'autres femmes ?
Il y en a plusieurs qui ont été, bon, j'ai cité Madame Göring, il y a les maîtresses aussi de son mari, puisqu'il y en a une qui va déclencher une crise, mais il y en aura eu d'autres plus discrètes. Et puis, il va y avoir aussi des personnalités comme Annelise Ribbentrop, la femme du ministre des Affaires étrangères, qui est aussi très présente, très active, mais qui, par chance, pour Magda Goebbels, n'aura jamais la même relation de camaraderie que celle qu'elle a pu avoir avec Hitler. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on l'a même murmuré, Hitler a beaucoup d'affection pour elle. Ce qui fait qu'on a pu dire parfois qu'ils avaient peut-être une relation un peu différente qu'une simple amitié. Je ne le crois absolument pas. Par contre, je pense qu'il a pour elle eu l'attention qu'il réserve et la fidélité qu'il réserve à ses amis anciens. Mmh. Et c'est comme ça, elle fait partie vraiment du premier cercle d'intime pour lui.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, à l'épisode ultime que vous évoquiez tout à l'heure et que beaucoup ont vu avec le film Der Untergang, La Chute, c'est le suicide final et le meurtre, hein, parce qu'il faut appeler cela comme cela, le meurtre des enfants.
Oui, alors c'est extrêmement choquant et dans ce film, c'était une image très brutale qui d'ailleurs a fait scandale puisque le réalisateur avait dit qu'il avait voulu montrer le meurtre des 6 enfants comme emblématique du meurtre des 6 millions de juifs, ce qui laisse perplexe sur les analogies qui étaient les siennes. Mais disons qu'il y a une certitude, c'est que la famille Goebbels, c'est-à-dire le père et la mère, ont décidé de se suicider comme Hitler, comme beaucoup d'autres hauts fonctionnaires du parti, et ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants soient éduqués dans une société qui ne soit pas une société nationale-socialiste. Et c'est la raison pour laquelle ils décident ensemble du meurtre. Alors, sur la modalité, c'est peut-être là qu'il y a un petit doute, on n'est pas certain que ce soit elle, en fait, qui ait cassé les capsules de cyanure dans la bouche. On sait qu'elle était avec le médecin pour faire boire aux enfants ce qu'elle faisait passer pour une tisane, mais qui en fait était un somnifère puissant et qu'elle voulait profiter justement de ce sommeil pour que les enfants meurent sans souffrir. Donc, il faut aussi préciser que ce n'est pas les seuls, hein, le couple Goebbels, qu'il y a d'autres familles qui vont se suicider collectivement ou dont les parents vont décider du meurtre des enfants à l'époque. Je crois qu'il faut garder présent à l'esprit qu'il y avait des modèles. Il y avait des modèles dans l'Antiquité de mères. Madame Hasdrubal, par exemple, hein, au moment du siège de Carthage, qui décide de tuer ses enfants. Hein, vous vous souvenez, elle les étrangle, elle les jette dans les flammes de Baal-Moloch. Donc il y avait ce modèle qui était connu, qui circulait, puisqu'on étudiait l'histoire antique, et en particulier l'histoire romaine et l'histoire carthaginoise, dans les lycées de l'Allemagne des années 1910-1920. Donc ces modèles-là étaient présents dans l'esprit. C'est vrai que c'est une scène qui fait que Magda Goebbels reste dans l'histoire comme peut-être le maximum de ce qu'on peut faire comme mauvaise mère. C'est-à-dire une mère qui a si peu confiance dans la capacité de ses enfants qu'elle préfère ne pas les voir vivre plutôt que de les laisser affronter leur destin. Au fond, on peut dire que ce serait le maximum de ce qui peut se faire en matière de mère abusive.
Femme diabolique.
C'est, je pense, l'image qu'elle gardera, puisqu'elle n'a pas suffisamment construit, en quelque sorte, politiquement, puisqu'elle a suivi son mari, elle n'a pas suffisamment construit politiquement pour que cela change. Alors que son mari est tout aussi diabolique, puisqu'il a consenti au meurtre des enfants, eh bien son mari tout aussi diabolique reste comme le grand propagandiste du Troisième Reich.
Eh bien Fabrice, merci beaucoup. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La vie mondaine sous le nazisme » paru chez Perrin. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle série de portraits. Merci.
Merci à vous.
Et à très bientôt.